Là, Pierre marcha devant lui, sans savoir où, sans savoir pourquoi. L'ombre qui tombait le surprenait, ainsi qu'un phénomène inattendu. Il avait levé les yeux vers le ciel, il s'étonnait de le voir pâlir, très doux, rayé à l'infini par les minces tuyaux noirs des cheminées. Et c'était aussi pour lui une singularité que de découvrir, à tous les balcons, les grandes lettres d'or des enseignes dans lesquelles se mourait le jour. Jamais il n'avait remarqué le bariolage des façades, les glaces peintes, les stores, les trophées, les affiches violentes, les magasins magnifiques, d'une indiscrétion de salons et d'alcôves, ouverts à la pleine lumière. Puis, sur la chaussée, le long des trottoirs, entre les colonnes et les kiosques, bleus, rouges, jaunes, quel encombrement, quelle cohue extraordinaire! Les voitures roulaient avec un grondement de fleuve. Et de toutes parts, la houle des fiacres était sillonnée par les manœuvres lourdes des grands omnibus, semblables à d'éclatants vaisseaux de haut bord, tandis que le flot des piétons ruisselait sans cesse, des deux côtés à l'infini. Et jusque parmi les roues, dans une hâte conquérante de fourmilières en révolution. D'où sortait tout ce monde? Où allaient toutes ces voitures? Quelle stupeur et quelle angoisse! Et Pierre marchait toujours devant lui, machinal, emporté par sa noire rêverie. La nuit venait, on allumait les premiers becs de gaz. C'était l'antre chien et loup de Paris, l'heure où les ténèbres ne sont pas encore, où les globes électriques flamboient dans le jour qui va s'éteindre. De tous côtés, les étincelles des lampes luisaient. Les magasins éclairaient leurs vitrines. Bientôt, les boulevards allaient charrier les étoiles vives des voitures, ainsi qu'une voie lactée en marche, entre les deux trottoirs incendiés par des lanternes, les rampes, les girandoles, un luxe aveuglant de plein soleil. Et, dans les cris des cochers, dans la bousculade des piétons, grondait la hâte dernière du Paris des affaires et des passions, la lutte sans merci pour l'amour et pour l'argent. La dure journée était faite, le Paris du plaisir s'illuminait. Commençait la nuit de fête. Les cafés, les marchands de vin, les restaurants brasillaient, étalaient derrière les hautes glaces sans teint leurs comptoirs de métal clair, leurs petites tables blanches, la tentation des beaux fruits et des paniers d'huîtres à leurs portes. Et ce Paris qui s'éveillait ainsi, au premier bec de gaz, était pris déjà d'une gaieté de jouissance, cédant à l'appétit déchaîné de tout ce qui s'achète. Mais Pierre manqua d'être renversé. Un troupeau de grilleurs débouchait, se lançait au travers de la foule, en criant les journaux du soir. Une nouvelle édition de « La voix du peuple », surtout, faisait un vacarme assourdissant, dominant le bruit des roues. Des voix rauques jetaient, reprenaient le cri, à intervalles réguliers. « Demandez la voix du peuple ! Le nouveau scandale des chemins de fer africains ! L'échec du ministère ! Les 32 vendus de la Chambre et du Sénat !» Et sur les exemplaires du journal, agités comme des étendards, se lisaient ces titres en caractères énormes. La foule continuait à galoper sans prêter grande attention, habituée à cette boue, saturée d'infamie. Quelques hommes s'arrêtaient, achetaient le journal, pendant que des filles, descendues en quête d'un dîner, traînaient leurs jupes, attendaient l'amant de hasard, en interrogeant du coin de l'œil la terrasse des cafés. Et ce cri déshonorant des journaux, ce cri qui souillait et souffletait, semblait être le glas dernier de la journée, sonnant les funérailles de la nation, au début de la nuit de plaisir qui commençait. Alors, Pierre se souvint une fois encore de sa matinée, de cette effrayante maison de la rue des Saules, où s'entassaient tant de misère et tant de souffrance. Il revit la cour fangeuse comme un cloaque, les escaliers nauséabonds, les logements sordides, glacés et nus, des familles se disputant des pâtés dont n'auraient pas voulu les errants. Des mères aux mamelles taries promenant des poupons qui hurlaient. Des vieux tombés dans des coins ainsi que des bêtes, agonisant de faim dans l'ordure. Et puis, ce fut encore sa journée, la magnificence, la quiétude, la joie des salons qu'il avait traversés, tout l'éclat insolent du Paris financier, du Paris politique et mondain. Et il aboutissait enfin, au crépuscule, à ce Paris Gomorre, à ce Paris Sodome, s'allumant pour la nuit, pour les abominations de cette nuit complice, dont la cendre fine, peu à peu, noyait l'océan des toitures. Et l'exécrable monstruosité de cela clamait sous le ciel pâle, où scintillaient les premières étoiles, pures et tremblantes. Pierre eut un grand frisson devant cet amas des iniquités et des douleurs. Tout ce qui se passait en bas dans la misère et dans le crime, tout ce qui se passait en haut dans la richesse et dans le vice. La bourgeoisie, au pouvoir, ne voulait rien lâcher de la souveraineté conquise, voler tout entière, tandis que le peuple, l'éternel dupe, le grand muet, serrait les poings, grondait en réclamant sa légitime part. Et c'était cette injustice affreuse qui emplissait de colère l'ombre naissante. De quel nuage, au flanc de ténèbres, la foudre allait-elle tomber? Il l'attendait, depuis des années déjà, cette foudre vengeresse que de sourds fracas annonçaient de tous les points de l'horizon. S'il avait écrit un livre de candeur et d'espoir, s'il était allé innocemment à Rome, c'était pour en conjurer l'effroyable éclat. Mais toute espérance était morte en son cœur. Il sentait la foudre inévitable. Rien désormais ne pouvait retarder la catastrophe. Jamais encore il ne l'avait sentie si prochaine, dans l'impudence heureuse des uns, dans la détresse exaspérée des autres. Et elle s'amassait. Et elle allait sûrement éclater au-dessus de ce Paris de rutes et de bravades qui, le soir venu, attisait sa fournaise. Au moment où il arrivait à la place de l'Opéra, Pierre, brisé de fatigue, éperdu, leva les yeux. Où était-il donc? Le cœur de la grande ville semblait battre là, dans la vaste étendue de ce carrefour, comme si le sang des quartiers lointains eût afflué de tous les côtés par de triomphales avenues. Il regarda se perdre à l'horizon les trouées de l'avenue de l'Opéra, des rues du 4 septembre et de la Paix, claires encore d'un reste de jour, déjà étoilées d'un fourmillement d'étincelles. Le boulevard traversait la place du torrent de sa circulation, où venaient se heurter les afflux des rues voisines en de continuels remous, qui faisaient de ce point le gouffre le plus dangereux du monde. Vainement, les gardiens de la paix tâchaient de mettre là quelque prudence. Le flot des piétons débordait quand même, les roues s'enchevêtraient, les chevaux se cabraient, au milieu du bruit de marées humaines aussi hautes, aussi incessantes que la voix de tempête d'un océan. Puis, c'était la masse isolée de l'Opéra, peu à peu noyée d'ombre, énorme et mystérieux, tel qu'un symbole, et dont l'Apollon, porteur de lyre tout en haut, gardait un dernier reflet de lumière dans le ciel blême. Et toutes les fenêtres des façades s'éclairaient, une allégresse naissait de ces milliers de lampes qui étincelaient une à une, un besoin de détente universelle, de libre assouvissement s'épandait avec l'ombre croissante, tandis que, de loin en loin, les globes électriques éclataient comme les lunes des nuits claires de Paris. Pourquoi donc se trouvait-il là? Pierre s'interrogeait, irrité et béant. Puisque la veuve était morte, il n'avait qu'à rentrer chez lui, qu'à se terrer dans son coin, porte et fenêtre closes, comme un être désormais inutile, sans croyance, sans espérance, n'attendant plus que l'anéantissement final. La course était longue, de la place de l'Opéra à sa petite maison de Neuilly. Malgré l'écrasement de sa lassitude, il ne voulut point prendre de voiture, il revint sur ses pas, retourna vers la Madeleine, se replongea parmi la bousculade des trottoirs, au milieu de l'assourdissement de la chaussée, avec l'âpre désir d'aggraver sa plaie, de se saturer de révolte et de colère. N'était-il donc pas au coin de cette rue, au bout de ce boulevard, le gouffre attendu où devait crouler ce monde pourri dont il entendait craquer la vieille société à chaque pas? Lorsqu'il voulut traverser la rue Scribe, un encombrement l'arrêta. Devant un café luxueux, deux grands diables, mal vêtus, fort sales, criaient alternativement la voix du peuple, les scandales, les vendus de la Chambre et du Sénat, d'une telle voix de cuivre fêlé que les passants s'attroupaient. Et là, il eut de nouveau la surprise de reconnaître Salvat, dans un homme hésitant, errant, qui, après avoir écouté, s'était approché du grand café pour regarder à travers les glaces. Cette fois, cette rencontre le frappa, l'emplit d'un soupçon, au point qu'il s'arrêta lui aussi, résolu à l'observer. Il ne pouvait croire qu'il allait le voir entrer et s'asseoir à une des petites tables sous la gaieté tiède des lampes, lui, d'aspect si misérable, avec ce morceau de pain qui faisait bosse sous le vieux veston en loques. Un instant, il attendit. Puis, il le vit simplement qui s'éloignait d'un pas brisé, ralenti, comme si le café, presque vide, ne lui eût pas convenu. Que cherchait-il donc? Où courait-il depuis le matin, dans cette chasse solitaire et sauvage, lancée de la sorte au travers du Paris de la richesse et de la joie, avec sa faim qui lui battait les talons? Il ne se traînait plus que difficilement. Il paraissait à bout de volonté et d'énergie. L'air vaincu, il s'approcha d'un kiosque, s'adossa un moment. Et il se redressa, et il marcha encore, cherchant toujours. Alors, un incident se produisit qui acheva d'émotionner Pierre. Un homme, grand et fort, débouchant de la rue Comartin, venait d'apercevoir et d'aborder Salvat. Et le prêtre, après une hésitation, reconnut son frère Guillaume au moment où il serrait sans honte la main de l'ouvrier. C'était bien lui, avec ses épais cheveux taillés en brosse, d'une blancheur de neige, malgré ses 47 ans à peine. Il avait gardé ses grosses moustaches, très brunes, sans un fil d'argent, ce qui donnait toute une vie énergique à sa grande face, au front haut, en forme de tour. Il tenait de son père ce front de logique et de raison inexpugnable que Pierre avait lui aussi. Mais le bas du visage de l'aîné était plus solide, le nez plus fort, le menton carré, la bouche large, au dessin ferme. Une cicatrice pâle, une blessure ancienne, balafrait la tempe gauche. Et cette physionomie très grave, rude et fermée, au premier aspect, s'éclairait d'une mâle bonté lorsqu'un sourire découvrait les dents, restées très blanches. Pierre se rappela ce que Madame Théodore lui avait conté le matin. Son frère, Guillaume, touché de tant de misère, s'était arrangé pour occuper chez lui Salvat pendant quelques jours. Et cela expliquait l'air d'intérêt avec lequel il semblait le questionner. Tandis que le mécanicien, l'air troublé de la rencontre, piétinait comme ayant hâte de reprendre sa course dolente. Un moment, Guillaume parut s'apercevoir de ce trouble, des réponses sans doute embarrassées qu'il obtenait. Cependant, il quitta l'ouvrier. Mais presque tout de suite, il se retourna, il le regarda s'éloigner de son allure harassée et têtue au travers de la foule. Et les réflexions qu'il fit alors durent être bien graves et bien pressantes, car il se décida tout d'un coup à revenir sur ses pas, à le suivre de loin, comme pour s'assurer de la direction qu'il prenait. Gagné par une inquiétude croissante, Pierre avait regardé la scène. L'attente nerveuse où il était d'un grand malheur indéterminé, le soupçon où venaient de le jeter les rencontres successives, inexplicables, de Salvat, la surprise de voir maintenant son frère mêlé à l'aventure, l'avait envahi tout entier d'un besoin de savoir, d'assister, d'empêcher peut-être. Il n'hésita pas, lui-même suivit les deux hommes prudemment. Ce fut pour lui un émoi nouveau, lorsque Salvat, puis son frère Guillaume, tournèrent brusquement dans la rue Godeau de Mauroy. Quel destin le ramenait dans cette rue, où il avait eu la hâte fiévreuse de revenir, d'où la mort de la veuve l'avait seule écarté. Et son saisissement grandit encore lorsque, après l'avoir perdu un instant, il retrouva Salvat debout sur le trottoir, en face de l'hôtel du Villard, à la place même où, le matin, il avait cru le reconnaître. Justement, la porte cochère de l'hôtel était grande ouverte, à la suite d'une réparation du pavé sous le porche. Et les ouvriers partis, ce vaste porche demeurait béant, empli par la nuit qui tombait. La rue étroite, à côté du boulevard étincelant, se noyait d'une ombre bleue que les becs de gaz piquaient de rares étoiles. Des femmes passèrent, qui obligèrent Salvat à descendre du trottoir. Mais il y remonta. Il alluma un bout de cigare, quelques restes ramassés sous les tables d'un café, et il reprit sa faction, immobile, en face de l'hôtel, patientant. Agité de pensées obscures, Pierre s'effrayait, se demandait s'il ne devait pas aborder cet homme. Ce qui l'arrêtait, c'était la présence de son frère, qu'il avait vu s'embusquer sous une porte voisine, guettant, prêt à intervenir lui aussi. Et il se contentait de ne pas perdre des yeux Salvat, toujours à l'affût, le regard sur le porche, ne le détournant que pour le porter vers le boulevard, comme s'il eût attendu quelqu'un ou quelque chose qui devait arriver par là. En effet, le landau des Duvillard parut enfin avec son cocher et son valet de pied en livrée gros vert et or, un landau très correctement attelé de deux grands carrossiers superbes. Contrairement à l'habitude, la voiture qui à cette heure ramenait la mère ou le père n'était occupée ce soir-là que par les deux enfants, Camille et Hyacinthe. Ils revenaient de la matinée de la princesse de Ars, et ils causaient librement avec la tranquille impudeur dont ils essayaient de s'étonner. « Les femmes me dégoûtent, et leur odeur, ah, la peste, et cette abomination de l'enfant qu'on risque toujours avec elles. Bah, mon cher, elles valent bien ton George Elson, cette fille manquée. D'ailleurs, tu te vantes, et tu as tort de ne pas t'arranger avec la princesse, puisqu'elle en meurt d'envie. » Ah, la princesse, en voilà encore une qui m'assomme. » Hyacinthe en était à la négation des sexes, à la pose alanguie du renoncement universel. Mais Camille, frémissante, irritée, parlait dans une fièvre mauvaise. Après un silence, elle reprit : Tu sais que maman est là-bas, avec lui. » Elle n'avait pas besoin de préciser davantage, son frère comprenait, car il parlait souvent de cette chose en toute liberté. Son essayage, c'est Salmont, hein, la bête histoire. Elle a filé par l'autre porte, elle est avec lui. Qu'est-ce que ça te fiche, qu'elle soit avec le bon ami Gérard ? Demanda paisiblement Hyacinthe. Puis, en la sentant bondir sur la banquette, tu l'aimes donc toujours ? Tu le veux ? Oh oui, je le veux et je l'aurai. » Elle avait mis dans ce cri toute sa rage jalouse de fille laide, toute sa souffrance d'être délaissée, de savoir sa mère si belle encore, en train de lui voler son plaisir. « Tu l'auras, reprit Hyacinthe, heureux de torturer un peu sa sœur, qu'il redoutait. « Tu l'auras, s'il veut bien se donner. »«
Il m'aime !» reprit furieusement Camille. « Il est gentil avec moi, ça me suffit. »
Il eut peur de son regard noir, de ses petites mains d'infirme qui se crispaient comme des griffes. Puis, après un silence,
« Et papa, qu'est-ce qu'il dit ?»«
Oh, papa, pourvu que de 4 à 6, il soit chez l'autre. » Hyacinthe se mit à rire. C'était ce qu'ils appelaient entre eux le petit goûter de papa. Et Camille s'en égayait gentiment, excepté les jours où maman, elle aussi, goûtait dehors. Le landau fermé était entré dans la rue, et il s'approchait au trot sonore des 2 grands carrossiers. À 7 minutes, une petite blonde de 16 à 18 ans, un trottin de modiste, qui avait au bras un large carton, traversa vivement pour entrer sous la porte avant la voiture. Elle apportait un chapeau à la baronne. Elle avait musé tout le long du boulevard, avec ses yeux d'un bleu de pervenche, son nez rose, sa bouche qui riait toujours, dans le plus adorable des petits visages qu'on pût voir. Et ce fut à ce moment, après un dernier coup d'œil vers le landau, que Salva, d'un bond, pénétra sous le porche. Presque aussitôt, il reparut. Il jeta au ruisseau son bout de cigare allumé et, sans courir, il s'en alla. Il s'effaça, au fond des ténèbres vagues de la rue. Alors, que se passa-t-il? Plus tard, Pierre se souvint qu'un camion du chemin de fer de l'Ouest s'était mis en travers, arrêtant, attardant 1 minute le landau, tandis que le trottin disparaissait sous la porte. Il avait vu, avec un serrement de cœur inexprimable, son frère Guillaume s'élancer à son tour, entrer dans l'hôtel comme sous le coup d'une révélation, d'une certitude brusque. Lui, sans comprendre nettement, sentait l'approche de l'effroyable chose. Mais, voulant courir, voulant crier, il était cloué sur le trottoir. Il avait la gorge serrée par une main de plomb. Soudainement, ce fut le grondement de la foudre, une explosion formidable, comme si la terre s'ouvrait, comme si l'hôtel foudroyé s'anéantissait. Toutes les vitres des maisons voisines éclatèrent, tombèrent avec un bruit retentissant de grêle. Une flamme d'enfer avait embrasé un instant la rue. La poussière et la fumée furent telles que les quelques passants aveuglés hurlèrent d'épouvante dans le saisissement de cette fournaise où ils croyaient culbuter. Et Pierre, alors, fut illuminé par cet éclair. Il revit la bombe gonflant le sac à outils que le chômage faisait vide et inutile. Il la revit sous le veston en loques, cette bosse, qu'il avait prise pour un morceau de pain ramassé contre une borne, rapporté au logis à la femme et à l'enfant. Après avoir couru, menacé tout le Paris heureux, elle venait de flamber là, d'éclater, tel que le tonnerre à ce seuil de la bourgeoisie souveraine, maîtresse de l'or. Lui, à ce moment, ne pensa qu'à son frère Guillaume, se jeta sous ce porche où semblait s'être ouverte une bouche de volcan. Et d'abord, il ne distingua rien, la fumée âcre noyait tout. Puis, il aperçut les murs fendus, l'étage supérieur éventré, le pavé défoncé, semé de décombres. Dehors, le landau qui allait entrer n'avait rien eu, ni un cheval atteint, ni même la caisse éraflée par un projectile. Mais, étalée sur le dos, la jeune fille, le petit trottin blond et joli, gisait, le ventre ouvert, avec son fin visage intact, les yeux clairs, le sourire étonné, dans le coup de foudre de la catastrophe. Tandis que, tombé près d'elle, le carton dont le couvercle s'était détaché simplement avait laissé rouler le chapeau, un chapeau rose, très fragile, resté charmant en sa fleur. Guillaume, par un prodige, était vivant, debout déjà. Seule, sa main gauche ruisselait de sang, des éclats qui lui avaient déchiré le poignet. Il avait eu les moustaches brûlées, et l'explosion, en le renversant, l'avait ébranlé et meurtri à un tel point qu'il grelottait de tout son être, comme dans un grand froid. Pourtant, il reconnut son frère, sans même s'étonner de le voir là, ainsi qu'il arrive après les désastres où l'inexpliqué devient providentiel. Ce frère, perdu de vue depuis si longtemps, était là naturellement parce qu'il fallait qu'il y fût. Et il lui cria tout de suite, dans le frisson fou qui l'agitait, « Emmène-moi, emmène-moi, chez toi, à Neuilly, oh, emmène-moi !» Puis, pour toute explication, parlant de Salva, « Je me doutais bien qu'il m'avait volé une cartouche, une seule, heureusement, sans quoi le quartier aurait sauté. Ah, le malheureux! Je n'ai pu arriver à temps pour mettre le pied sur la mèche. » Avec une lucidité parfaite, telle que la donne parfois le danger, Pierre, sans parler, sans perdre une seconde, se souvint que l'hôtel avait une sortie par derrière, rue Vignon. Il venait de comprendre le grave péril où son frère serait s'il se trouvait mêlé à cette vicaire. Vivement, quand il l'eut emmené dans l'ombre de la rue Vignon, il lui noua son mouchoir autour du poignet, qu'il lui fit cacher ensuite sous son veston contre sa poitrine. « Emmène-moi !» répétait Guillaume, hanté et grelottant. « Chez toi, à Neuilly, pas chez moi !»« Oui, oui, sois tranquille. Tiens, attends là un instant, je vais arrêter une voiture. » Il l'avait ramené sur le boulevard, dans sa hâte de trouver un fiacre. Mais le tonnerre de l'explosion bouleversait le quartier. Les chevaux se cabraient, des gens galopaient au hasard, pris de démence. Et des agents étaient accourus. Une foule se ruait, encombrait déjà l'entrée de la rue Godeau de Mauroy, noire comme un gouffre, les lumières s'étant toutes éteintes. Tandis que, sur le boulevard, un crieur de la voix du peuple s'entêtait à clamer le nouveau scandale des chemins de fer africains, les 32 vendus de la Chambre et du Sénat, la chute prochaine du ministère. Pierre enfin arrêtait un fiacre. Lorsqu'il entendit un passant qui courait dire à un autre « Le ministère ? Ah bien, voilà une bombe qui le raccommode !» Les deux frères montèrent dans la voiture qui les emmena. Et au-dessus de Paris grondant, la nuit noire s'était faite, une nuit sans pardon où les étoiles sombraient sous la brume de crimes et de colère montée des toitures. Le grand cri de justice passait, dans le bruit d'ailes terrifiant que Sodome et Gomorre avaient entendu venir de toutes les ténèbres de l'horizon.